Réplique, Disgrâce de John Michael Coetzee avec Claude Habib et Pierre Pachet. Dans un article que publie la revue Esprit, Claude Habib écrit « Je ne me plains pas de lire des romans contemporains. Il y en a qui me fâchent, d'autres qui me stimulent, certains m'ennuient, certains m'amusent. Cependant, depuis des années, quelque chose me manquait sans que j'y pense. Disgrâce vient de me rendre le sentiment de la beauté littéraire. » À lire ce roman de l'écrivain sud-africain John Michael Coetzee, paru à la rentrée aux éditions du Seuil, j'ai éprouvé la même émotion, la même surprise et la même gratitude que Claude Habib. Pour mieux comprendre le sens de cette émotion, pour tenter d'éclaircir le mystère de cette œuvre claire, et parce qu'il me semblait impératif de la soustraire, cette œuvre, au flot indistinct de l'actualité littéraire, j'ai invité Claude Habib et Pierre Pachet, deux grands lecteurs, à parler aujourd'hui de Disgrâce. Et d'abord, Claude Habib, puisque vous n'employez jamais les mots au hasard, qu'entendez-vous par beauté littéraire ?
C'est une question embarrassante parce que il est difficile de trouver un facteur commun entre l'émotion que donne Rabelais, celle que donne Racine ou celle que donne Proust. Donc j'ai peur de me ridiculiser en répondant. En même temps, ce qui frappe, ce sentiment d'arrêt dont vous venez de parler, devant une œuvre pareille, c'est le sentiment que quelque chose y est contenu, qu'elle condense énormément d'aspects de l'existence, qu'elle donne à voir quelque chose de notre condition, mais en le contenant, un peu comme un insecte est contenu dans de l'ambre. Alors c'est ça, c'est cet objet énigmatique, réfractaire, je disais dans l'article, aussi comme une brique réfractaire qui a emmagasiné de la chaleur et qui peut la restituer, quelque chose qui appelle à être développé, qui appelle l'interprétation. C'est ça qui m'a retenu devant ce livre. Alors, beauté littéraire, c'est peut-être beaucoup dire, mais quelque chose qui échappe au reportage, à la publicité, à quelque chose qui condense. C'est peut-être le terme que je garderais.
Oui, dans votre article, vous mettez en rapport, pour illustrer justement cette phrase et l'émotion dont vous partez, le roman de Coetzee avec Flaubert, avec Emma Bovary. Vous dites que Coetzee partage avec Flaubert le goût de la réserve et le génie du chagrin, et que le destin de son héros dessine lui aussi une courbe inéluctable. À ce tracé, on ne peut rien changer, on ne peut rien rêver de changer. Je crois que ça fait beaucoup justement pour ce sentiment de beauté, pour que le mot beauté vienne à l'idée quand on le lit.
Ce qui certainement rapprochait de Flaubert, c'est ce sentiment quasi d'autosuffisance de l'œuvre d'art qui tient d'elle-même toute seule et qui contient les choses sans attache presque avec le monde extérieur. Mais je ne voudrais pas aller trop loin dans le rapprochement avec Flaubert parce qu'il y a une cruauté flaubertienne dans le destin d'Emma, dans le suicide d'Emma. Il y a quelque chose de terriblement oppressant chez Flaubert, alors que j'ai l'impression que chez Coetzee, il y a une compassion et une compréhension différentes. Il y a moins de... Il n'y a pas la dureté impitoyable de Flaubert, donc je ne voudrais pas surexploiter.
Il y a la dureté d'un destin, cela dit. Est-ce que vous pourriez dire un mot, justement, de l'histoire, de ce destin inéluctable de David Le Ry pour le...
Oui, alors c'est une courbe au sens, c'est vraiment une déchéance. On prend un homme qui est un homme de 52 ans, professeur d'université, avec deux divorces derrière lui, une fille qui vit pas avec lui, et puis donc une activité d'universitaire moderne. Et à la fin du livre, on a une sorte de clochard qui joue du banjo dans une cour de la SPA. Alors, c'est une cour. Alors, ce destin, ces paliers de la dégradation, c'est une très belle histoire. Donc, cet homme est à un moment où il pense avoir résolu le problème sexuel, il a des rapports hebdomadaire parfaitement réglé avec une prostituée, et cette relation s'interrompt, la prostituée disparaît dans la nature, et il va avoir une passade pour une étudiante. Et cette passade pour une étudiante, cette histoire s'interrompt parce que la jeune fille porte plainte pour harcèlement sexuel auprès des autorités de son université. Cette plainte, cette requalification a posteriori est assez choquante puisque elle n'a pas donné de signe de consentement ou de, elle n'avait pas l'air ravie de cette relation, mais enfin elle s'est jamais débattue. Il n'y a pas de viol au sens technique du terme dans les épisodes qui sont relatés. La réaction de David Lurie devant cette accusation, c'est de s'y plier, c'est d'accepter entièrement ce dont elle l'accuse et qu'il ne sait même pas, il ne connaît pas les termes de l'accusation. Elle a comparu devant ses collègues la veille et il dit « j'accepte en bloc, je plaide coupable, mais je plaide pas du tout d'ailleurs, je refuse de m'exprimer devant vous, c'est ma vie privée ». Alors cette attitude intransigeante conduit ses collègues aux sanctions les plus grave possible, il est donc chassé de l'université. C'est le premier temps du roman. Alors, il part vivre à la campagne auprès de sa fille qui est donc une citadine reconvertie en fermière. Elle habitait dans une communauté et puis tous les membres de la communauté sont partis. Aux dernières nouvelles, elle habitait avec une femme, donc c'est une jeune femme homosexuelle. Et puis, la femme en question n'est pas là, ce qui d'ailleurs arrange le père, qui n'avait pas tellement envie de voir ce couple homosexuel. Bon, et il commence donc à se plier à cette vie qui n'est pas exactement une vie de fermière, qui est plutôt une vie moderne, une vie de ferme moderne, puisqu'elle fait des fruits et des légumes, des fleurs. Et elle fait aussi du gardiennage de chiens, ça aussi c'est pour citadins. Donc c'est presque des services pour la banlieue plutôt que la ferme à l'ancienne. Et puis, au milieu de cette vie, qui est un peu difficile, puisque entre ce père avec une fille qu'il supposait lesbienne, puis la fille, elle le regarde comme un don Juan qui vient d'avoir des ennuis pour une accusation de harcèlement. Bon, au milieu de cette vie qui est affectueuse et intelligente, il y a ce traumatisme épouvantable du viol. Trois jeunes gens qui s'introduisent dans la ferme, qui violent Lucie, encore qu'on ne voit rien, mais enfin, on ne peut pas douter de ce qui se passe. Et pendant ce temps, on suit le point de vue de David qui, lui, est torturé. Est torturé par les agresseurs de sa fille qui, ayant fait le coup, tue tous les chiens qui étaient en cage et qui étaient donc des chiens en gardiennage. Donc il y a une espèce de surcroît de cruauté. Et puis vole tout ce qu'ils peuvent voler, vole sa voiture et s'en vont. Alors à partir de là, Lucie et son père s'écartent l'un de l'autre parce que Lucie ne porte pas plainte. Elle porte plainte pour cambriolage afin d'être remboursée par l'assurance, mais sur l'essentiel, elle ne dit rien. Et cette manière d'accepter l'injustice est évidemment intolérable pour le père. Le père veut que justice soit faite, puis il voudrait que sa fille soit une fille moderne, une fille qui prend son destin en main, une fille qui se défend, et elle se défend pas du tout, elle reste dans une passivité douloureuse et désolée, les rapports se dégradent. Voilà, on pourrait peut-être s'arrêter là.
Oui, on peut s'arrêter là et on continuera pour raconter jusqu'à la fin cette histoire. Mais Pierre Pachet, quel est votre...
Non, ben maintenant j'ai envie de revenir en arrière sur Flaubert, sur l'idée de beauté littéraire. C'est-à-dire, la comparaison avec Madame Bovary s'impose, puisque le roman, il fait référence deux fois à Emma Bovary, d'ailleurs pour s'en distinguer, pour dire que la célèbre jouissance sexuelle d'Emma Bovary, si ruisselante, si cette révélation presque niaise, est étrangère à l'atmosphère du roman, dans lequel il est bien question d'éros et du plaisir sexuel, mais d'un plaisir beaucoup plus long, beaucoup plus sobre, plus sec à certains égards. C'est une des énigmes, d'ailleurs, du livre, une de celles qui font sa beauté. Et puis, sans doute, beauté littéraire, enfin, il y a une très grande beauté dans ce livre, c'est une beauté qui est liée à la douleur, à la souffrance, à la reconnaissance de ce qui, dans le monde, est très, très dur, et que le roman ne nous épargne pas, même s'il n'est pas cruel, en effet, il ne s'appesantit pas sur ce qui fait mal, mais il ne nous l'épargne pas. Mais c'est une œuvre dont la construction ne ressemble pas à celle d'une œuvre littéraire, justement, parce qu'il me semble qu'il y a un grand nombre de plans, de questions, y compris d'ailleurs des questions qui sont débattues, de silences qui coexistent dans une forme qui, à mon avis, est totalement indescriptible. À la différence, peut-être, de la forme flaubertienne, qui a quelque chose de clos, Non pas que l'œuvre soit ouverte, je sais pas ce que ça voudrait dire, mais les plans glissent les uns sur les autres. Par exemple, la question des animaux est présente absolument depuis le début, la question des chiens. Qu'est-ce qu'on fait avec les animaux? Qu'est-ce que c'est que cette supériorité des hommes sur les animaux? Ou bien la question sexuelle, qu'est-ce que c'est que cette différence des hommes et des femmes? Est-ce que les hommes sont condamnés à l'injustice du rapport sexuel avec les femmes et de la domination? Ou bien la question entre les noirs et les blancs, qui est à l'arrière-plan, qui est évidemment très très important. Mais aucune de ces questions n'est centrale, et la façon dont ces plans glissent les uns sur les autres, je trouve que c'est admirable, mais est-ce que c'est littéraire? Je ne sais pas.
En tout cas, je pense aussi, moi, que c'est admirable. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été arrêté par ce roman. Je disais en commençant que c'est une œuvre claire, et en même temps, elle est très énigmatique, et l'énigme tient aussi à la pluralité des thèmes, la manière dont ils s'agencent et la difficulté où on est justement d'en tirer en quelque sorte une leçon définitive. Alors, il y a la question du rapport entre les Blancs et les Noirs, donc la question de l'Afrique du Sud, au travers de ce personnage de Lucie, la fille, et des efforts qu'elle fait dans sa passivité même pour rester en Afrique du Sud, puisque son père, après le viol, veut soit qu'elle demande justice, soit qu'elle s'en aille. Hein. C'est les deux possibilités, voice ou exit, comme disait Albert Hirschman, soit on proteste, soit on s'enfuit. Elle ne veut ni l'un ni l'autre pour rester. Mais nous y viendrons peut-être tout à l'heure, parce que l'une des choses les plus frappantes, et vous en parlez dans votre article, Claude Habib, c'est cet étrange effet de miroir entre les deux viols. Il y a deux viols. Il y a celui dont il est accusé par une requalification. Il a couché trois fois avec cette Mélanie. À un moment donné, d'ailleurs, ce qui n'est pas la première fois, la deuxième fois qu'il couche avec elle, elle n'est pas d'accord, il va chez elle, il la prend, et voici ce qu'il dit: ce n'est pas un viol, pas tout à fait, mais sans désir, sans le moindre désir au plus profond de son être, il s'agit d'elle en l'occurrence, comme si elle avait décidé de n'être qu'une chiffre, de faire la morte au fin fond d'elle-même, le temps que cela dure, comme un lapin, lorsque les mâchoires du renard se referment sur son col, de sorte que tout ce qu'on lui fait se ferait, pour ainsi dire, loin d'elle. Et puis, donc, quelque chose qui est une violence, peut-être, mais qui n'est pas un viol et qui est requalifié comme tel dans le cadre de cette terrible procédure de harcèlement sexuel pour laquelle il plaide coupable tout en refusant d'entrer dans le jeu de l'excuse. Il dit des choses très fortes d'ailleurs là-dessus. Et puis il y a le viol véritable dont sa fille est victime alors qu'il est là, qu'il ne peut pas l'aider. Quel rapport doit-on instauré entre ces deux événements? Ils font écho l'un à l'autre. Que dire de cet écho?
Pierre Pachet a employé le terme de coulisser. Il y a des plans qui se coulissent, et puis c'est vrai qu'ils s'entrappellent, c'est-à-dire qu'ils appellent à l'interprétation. Le terme viol est dit pour les deux cas, et bien sûr les deux cas sont entièrement différents. Le premier, c'est le viol au sens où le définissent les féministes américaines les plus sourcilleuses, c'est le harcèlement sexuel, mais bon, oui, il y a peut-être de l'abus, oui, il a utilisé son prestige professoral, mais enfin, il n'a jamais fait peur, il n'a jamais menacé, il a jamais fait un chantage à l'examen en disant qu'elle aurait luvé si elle se prêtait. Où est l'abus? Il suffit qu'elle l'ait dit pour qu'il se plie. C'est ça qui est très chevaleresque.
Je peux ajouter même quelque chose de plus, parce que Alain Finkielkraut disait, lorsque il couche avec elle trois fois, elle se laisse faire, ou bien une fois elle est totalement inerte, et c'est terrible pour un homme, et il le dit très longuement, de faire l'amour à une femme inerte. Mais elle ne l'est pas tout le temps totalement. Non, et non. Justement, il y a un souvenir érotique brûlant pour lui, qui est un homme éminemment érotique, éminemment sensible. C'est qu'une fois, lorsqu'il lui a fait l'amour, elle a eu un geste intime que je ne veux pas évoquer, mais qui est un geste qui manifeste une entente. Et il dit que... Parce que La façon dont ils font l'amour est décrite, de son point de vue à lui, d'une façon assez précise, justement, par un homme qui a l'habitude d'avoir des aventures féminines. Et il évoque cela, il le décrit très bien de la même façon qu'il a décrit son inertie, il décrit les mouvements de son corps, la façon dont il commence à comprendre les mouvements de son corps. Je dis ça simplement aussi, par esprit de justice.
Et aussi le fait qu'une fois, c'est elle qui vient chez lui et qui lui demande l'hospitalité pour la nuit. Donc c'est pas du tout une violence à sens unique exercée par un homme contre une femme. Et alors, une chose que je voudrais dire, c'est qu'en acceptant la sanction, et même en allant au-devant de la sanction, il a une attitude chevaleresque, c'est-à-dire qu'il se plie entièrement au désir de la dame. La dame de ses pensées l'écarte de lui, le met en disgrâce, et bien il accomplira ce qu'elle veut de lui, il sera en disgrâce. Et donc, par là même, c'est pour ça que le roman est certainement très équivoque, il accepte et dément. Par le fait qu'il lui obéisse à ce point-là, il prouve rétrospectivement que ce qu'il y avait entre eux, c'était absolument pas du viol. Donc, il y a une requalification par Mélanie qui l'accuse de viol, mais par son obéissance à lui, il y a une autre requalification de ce qui s'est passé entre eux comme le dernier amour et non pas comme un viol.
Mais il est très sévère quand même aussi avec l'inquisition qu'il subit. Il a ce mouvement chevaleresque, puisque c'est ainsi qu'elle le voit. Je ne cherche pas à me disculper, mais il refuse en même temps toute accusation. Cela me rappelle trop, dit-il, la Chine de Mao. Rétractation, autocritique, excuse publique. Nous vivons une époque de puritanisme. La vie privée des uns est l'affaire de tous. Et un peu plus loin, il en reparle avec cette femme qu'il rencontre près, là où habite sa fille et qui s'occupe d'un centre de protection des animaux où elle, avec amour, elle donne la mort aux chiens, aux nombreux chiens surnuméraires, et nous y reviendrons. Et il lui dit, le mot d'ordre, c'est la surveillance de chacun par tous, la purge a remplacé la purgation. Parce que elle, l'interprétation qui lui est livrée à ce moment-là, c'est « vous êtes un bouc émissaire ». Il dit « non, non, c'est pas tout à fait ça, c'est encore pire en quelque sorte ». Donc d'une certaine manière, il nous livre une critique, qui est sans doute celle de Coetzé aussi, de cette folie dont il est en effet la victime consentante. Et on peut se dire, justement, quand on met en relation ces deux viols, enfin, il y a d'un côté donc cette gauche culturelle des campus, dans le grand solipsisme des campus, dans le grand espèce de chose autiste, cette bulle. Alors, on fait en sorte que tout le monde s'occupe de l'autre, que l'altérité soit respectée dans les œuvres, dans les comportements, etc. Et on cherche ainsi à résoudre le problème humain par le respect de l'autre, en supprimant toute ambiguïté, toute indétermination, toute violence, et en se désintéressant de ce qui se passe ailleurs, et notamment là, en Afrique du Sud, où il y a une violence qui perdure à l'apartheid, et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire l'apartheid c'est fini, mais la violence se manifeste au travers de ce type d'actes dont on apprend qu'ils sont extrêmement fréquents, et donc on se dit, il y a les fous des campus qui veulent chercher une solution au problème humain là où on ne devrait pas raisonner en ces termes, et là où on espérait une solution politique du rapport entre les Noirs et les Blancs, on se rend compte que la haine est là, qu'elle continue, et que Coetzé ne nous laisse entrevoir aucun espoir. C'est-à-dire, c'est ouais. Vraiment... Ils se conduisent, dit-il, comme des créanciers, et on ne voit pas juste quand sera apaisée leur colère, et comment on pourra éviter qu'elle prenne cette forme-là d'expression.
Enfin, bon, je comprends comment vous reconstituez le problème d'une façon d'ailleurs très claire, mais il ne faudrait pas qu'on oublie justement ce second viol. Or, vous dites, il ne laisse aucun espoir. Enfin, ce livre est étrange parce que c'est un livre qui fait mal. Il ne faut pas raconter d'histoire aux futurs lecteurs, c'est un livre qui fait mal, c'est un livre qui fait souffrir. Moi, c'est un livre qui m'a fait pleurer plusieurs fois et encore aujourd'hui. Alors, dire qu'il est sans espoir n'est pas tout à fait exact, il y a de la lumière. Par exemple, ce qui est la plus grande douleur du viol, je dirais, du viol, du second viol, du vrai viol, du viol par les trois hommes qui sont trois Africains qui font irruption à la ferme, le plus dur, c'est que la femme, la jeune femme qui est violée pendant que son père est enfermé dans les cabinets, cette jeune femme refuse de parler lorsque son père vient près d'elle, affectueusement essaye de parler avec elle. Elle ne veut rien dire. Et non seulement elle ne veut rien dire, mais elle lui dit, elle et son amie femme qui s'occupe de l'SPA lui dit « Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé, tu ne comprends rien, parce que tu es un homme, tu ne peux pas savoir. » Et justement, le roman ne s'en tient pas là, et il y a un moment, une scène tout à fait forte, à mon avis, belle, et qui vient à la fois de l'imagination de Coetzee et de son talent, lorsque il est avec sa fille dans la voiture, il pense avoir récupéré sa voiture, bon, sa fille est dans un état de vulnérabilité, et sur un bord de route, il arrête la voiture, et elle lui parle, et elle accepte de parler avec lui de ce qui s'est passé, et elle accepte de lui dire, non pas techniquement ce qu'ont été les gestes, mais ce qu'ont été les attitudes de ces trois agresseurs. Et c'est un moment merveilleux. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un moment d'espoir. Au contraire, justement, là, une lumière est donnée. C'est-à-dire que cette femme dont le mutisme est terrible pendant tout le livre.
Terrible, presque exaspérant.
Oui, parce que.
Pour lui et pour le lecteur.
Oui, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, mais elle ne veut pas le dire. Et là, elle accepte d'en parler. Elle accepte de parler de ce qu'a été la haine de ces hommes, de ce que c'est que ce regard qu'ils ont eu sur elle.
D'accord, donc c'est un moment de communication, de
lumière,
vérité, de lumière, si vous voulez, entre les deux. Et en même temps, ça se retourne. C'est-à-dire qu'avant, on disait « tu es un homme, tu ne peux pas comprendre ». Et maintenant, c'est, je cite exactement, « peut-être que pour les hommes, c'est plus excitant de haïr la femme. Tu es un homme, tu dois savoir ça mieux que moi. Quand vous avez des rapports sexuels avec quelqu'un d'étrange, quand vous la coincez, quand vous pesez sur elle de tout votre poids et que vous l'immobilisez, est-ce que ce n'est pas comme ça lorsqu'on tue, on enfonce le couteau et on se retire ensuite, laissant un corps couvert de sang? Est-ce que ce n'est pas comme un meurtre, comme si on s'en tirait impunément après un meurtre? Donc c'est le point où, en effet, ça passe, et puis ça passe trop loin jusqu'à quelque chose qui ressemble à une inculpation. Tu es un homme, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas savoir. Tu es un homme, tu sais ça mieux que moi.
Non, mais que Lucie pense en ce sens, très bien, mais peu importe, pour moi, Lucie ne porte pas plus la vérité du roman que son père, plutôt moins d'ailleurs, parce que c'est quand même le père qui est celui qui, justement, pour certaines raisons, parce qu'il a accès au lyrisme, voit mieux dans les choses, même s'il est un homme. Donc qu'elle aille loin dans ce moment-là, je crois que c'est tout à fait injuste, je comprends cette injustice, mais quand on suit le personnage de David Lurie, on voit bien que pour lui, faire l'amour, ça n'est pas cela, avec qui que ce soit, y compris avec la prostituée, la jeune
Soraya,
prostituée
qui le...
Non, mais celle qui ramasse un soir dans la ville, ça n'est pas ainsi qu'il se comporte. Et Eros connaît une violence, mais le roman affirme avec une force extraordinaire, à mon avis inoubliable, qu'Eros n'est pas que cette violence, non. Contrairement à ce que dit sa fille, qui d'ailleurs, à certains égards, semble ne connaître de l'amour avec des hommes que des expériences désagréables, celles qui ont été suivies d'avortement ou bien ce viol.
Absolument, mais je ne pensais pas que la question de Lucie était une réponse définitive, mais je pensais qu'elle était transfixiante. C'est-à-dire que quel est le rapport du désir masculin et de l'agressivité est vraiment une... quelque chose qui perfore ce livre. Et je crois que si on rapproche la fin, on n'avait pas raconté la fin et l'épisode de la mise à mort des chiens, on s'aperçoit qu'il y a cette femme de la SPA dont le travail auquel il s'associe de plus en plus est de mettre à mort les chiens surnuméraires. À la fin, il est son bras droit, il l'aide, et il l'aide à tuer en trompant un chien qui s'est pris d'affection pour lui. Ce chien l'aime, ce chien le suit, eh bien il l'apporte quand même à la seringue, il l'apporte quand même à la mort. Et je crois que le roman nous dit, il y a deux manières de tuer les chiens, la manière des violeurs noirs qui ont saccagé la ferme et la manière de David Lurie. Il y a deux manières de prendre les femmes, la manière de David Lurie et la manière de ces violeurs. Je crois que le roman sépare, mais en séparant, il crée un jeu d'analogie qui fait que l'un ne peut pas ne pas renvoyer à l'autre.
Ne peut pas renvoyer à l'autre, oui. Mais quand même, ce qui est particulièrement poignant dans le roman, justement, c'est que cette expérience qu'ils ont d'une certaine manière partagée sépare Lucie et son père. Et la hargne de Lucie est dirigée tout au long de la deuxième partie du livre, avec quelques moments comme ça de pause, de répit, plutôt vers son père, presque que vers ses agresseurs, puisqu'elle va très loin dans l'acceptation, dans le prix qu'elle est prête à payer pour rester d'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, là où elle est. Donc elle refuse les propositions lui fait son père, que ce soit dans le sens de la rébellion ou dans le sens de la fuite. Et à un moment donné, elle accepte l'offre tout à fait invraisemblable de Petrus, qui aurait pu être son boy à une autre époque et qui va bientôt occuper la maison qui surplombera la sienne, et il lui propose un mariage. Et ce mariage sera un arrangement. Elle n'aura pas accouché avec lui, mais elle sera protégée par lui. Et on comprend d'ailleurs que Petrus a laissé faire ce viol, en quelque sorte, pour peut-être pour lui administrer une leçon, en tout cas pour finir de renverser le rapport avec elle. On apprend aussi que l'autre blanc qui s'accroche, Ettinger, et qui lui, un vieux de la vieille de l'apartheid, ben, il finira un jour ou l'autre avec une balle dans le dos. Et donc, elle va extrêmement loin. Et à un moment, son père lui dit, mais c'est pas possible que tu acceptes ça. À un moment, elle dit, David, puisqu'elle appelle son père par son prénom, et si ça c'était le prix à payer pour rester ici, il considère que je dois quelque chose, il se considère comme des créanciers qui viennent recouvrer une dette, un impôt. De quel droit pourrais-je vivre ici sans payer mon dû? C'est peut-être ce qu'ils disent. Et là, on est évidemment tout de même pris par le côté tragique. Vous disiez, Pierre Pachet, qu'on pleure, mais c'est vraiment un roman absolument tragique. Et dans la tragédie, il y a quelque chose comme le sentiment du trop tard, c'est-à-dire l'apartheid, c'est fini. Mais si quelque chose perdure alors que c'est fini, ça veut dire que ce n'est pas fini, et peut-être que ça a fini trop tard pour que ce soit vraiment fini. Et donc là, on a quand même un sentiment de désolation absolument sans consolation, justement. On ne voit pas où la consolation est possible.
Non, mais je suis d'accord avec vous, au sens, enfin, je dis pas tragique, au sens où la situation dans laquelle le roman est situé, Claude Habib disait dans son article, c'est pas plus un roman sur l'Afrique du Sud qu'Emma Bovary n'est un roman sur la Normandie. Oui, enfin, pas plus, pas moins.
Pas moins, voilà.
Bien sûr, la situation est terrible. Et Lucie dit ceci à son père. Elle lui dit deux choses. Elle lui dit, premièrement, toi, au fond, tu es un universitaire, un homme qui vit pour la poésie, tu aimes Byron, tu aimes Wordsworth. Mais moi, je veux vivre à un niveau qui est beaucoup plus bas, qui est le niveau même des chiens, qui est le niveau de la terre. C'est une utopie aussi, peut-être. Mais c'est lié à l'acceptation d'une réalité. Et la deuxième chose qu'elle lui dit, c'est plus tard, dans le roman, après le viol, et après le viol, elle est enceinte. C'est que elle ne peut pas se conduire comme un individu occidental, urbain, qui conduit son destin de façon autonome. Elle doit se plier à quelque chose. Peut-être cela est faux, et je pense que le roman nous plonge au cœur de ces questions. C'est ce qui fait que aussi une des raisons pour lesquelles on aime ce livre et pour lesquelles on est rassemblé autour de lui d'une façon un peu fébrile, c'est qu'il nous, comme les livres qu'on aime, il entre dans notre vie et on a envie d'en parler parce qu'il donne une figure à des choses et à des paroles et à des pensées, à des situations qui sinon passent d'une façon un peu fantomatique dans nos têtes.
Ce en quoi elle ne peut pas vivre comme un individu, c'est qu'elle est une femme. Et que, étant une femme, bon, alors les violeurs le lui rappellent d'une façon brutale, mais indépendamment de ça, elle aura à créer des liens, elle aura à avoir des enfants, elle aura à manifester une souplesse qui n'est pas nécessaire à son père, d'autant qu'il est universitaire et qu'il n'a pas besoin de.
C'est qu'elle est une femme dans un pays post-colonial dans lequel la loi des Blancs a été abolie. On ne sait pas trop quelle est la loi qui règne, mais ceux qui gouvernent, ce sont les liens de protection. Et donc, elle se met sous la protection de Petrus, personnage qui, bien qu'il ait un nom néerlandais, est un noir, qui connaît les mœurs locales, qui connaît les liens d'affiliation et qui va la protéger, elle et son enfant. Elle se met sous cette protection, elle ne veut pas retourner en ville.
Ce que vous disiez tout à l'heure sur le pseudo-mariage avec Petrus s'aggrave du fait qu'en échange, elle lui donne ses terres. Donc, il y a vraiment un marché très inégal en sa défaveur.
Un marché très inégal. Et il faut dire aussi, quand même, et ça c'est pour souligner l'art de Coetzee, c'est que Petrus, il n'est jamais dit, enfin il n'est pas dit au début, en tout cas quand nous le rencontrons, qu'il est noir. Mm-hmm. ces spécifications n'interviennent pas. Nous le comprenons, mais Coetzee choisit en quelque sorte de ne pas nous le dire, comme si nous vivions dans une utopie, et puis en même temps...
Non, c'était déjà le cas dans Michael K., Sa vie, son temps. Je crois que c'est un parti pris qu'il a depuis longtemps de ne pas nommer cette question.
Mais elle n'est pas nommée, mais elle est évidemment omniprésente. Et à un moment donné, d'ailleurs, c'est le père qui apprend de la bouche de Pétrus que celui-ci veut épouser sa fille, alors qu'il est déjà marié, en plus.
Et il a déjà deux épouses.
Il a déjà deux épouses, dont l'une est enceinte. Il héberge, comme cousin, l'un des trois agresseurs, donc chez lui. Et le père a cette réaction quand même terrible. Il lui dit « Mais chez nous, on ne fait pas comme ça. » Et il a envie de dire, parce que cette idée lui vient malgré lui, nous occidentaux. Donc tout d'un coup, il est renvoyé à cette différence qu'il pensait peut-être avoir surmontée et qui en quelque sorte éclate à nouveau. Et ça fait aussi partie de cette ambiance tragique du livre, enfin de cette idée que...
Il y a un côté, je ne sais pas si on a le droit d'en parler, parce que ça, quand on se met à parler justement de ces questions politico-sociales, la littérature elle-même, en quelque sorte, part à l'arrière-plan. Bon, c'est normal, hein, la littérature, ça ne peut pas lutter contre les temps et contre la situation sociale, ni l'apartheid. Mais il y a un aspect, moi, qui m'intéresse, dont je voudrais dire deux mots, c'est le fait que le héros, David Lurie, professeur de littérature dans une université où la littérature joue à moins d'importance qu'autrefois, lui, il se sent une vocation lyrique. Il est attiré par ce qui est lyrique. Et d'ailleurs, c'est un des arguments qu'il donne dans l'accusation lorsqu'il va voir après le père de la jeune fille avec qui, la jeune étudiante avec qui il a eu cette aventure. Il lui dit, si j'ai commis une faute, c'est que lorsque j'ai couché avec votre fille, et le père est évidemment horrifié qu'on lui parle de ça, lorsque j'ai couché avec votre fille, je n'ai pas été assez lyrique. Alors évidemment, le père ne comprend absolument rien, mais ce lyrisme, cet appel du lyrisme est chez lui très important. C'est pas simplement son goût pour les poètes anglais qu'il enseigne, ni même son projet qu'il met à l'exécution tant bien que mal d'un opéra sur la dernière maîtresse de Byron ou sur la survie lyrique de Byron. Moi, j'ai envie de citer un vers latin parce qu'il est cité dans Séquistre, mais après tout, on est sur France Culture, on fait ce qu'on veut.
Et on le fera.
Le roman cite un vers latin, je ne sais pas s'il est traduit dans la version française, « Sunt lacrimae rerum » Ent mentem mortalia tangunt. C'est un vers de l'Énéide. Je vais me permettre de vous le traduire. Bien, vous connaissiez parfaitement le latin, Alain.
Non, hélas, je ne le connais plus.
C'est un vers de l'Énéide, c'est-à-dire il est situé au moment où les déportés de Troie, enfin les vaincus de Troie, abordent à Carthage et ils voient que l'histoire de leur vie est représentée. Ce qu'ils ont vécu n'a pas été vécu en vain. Leurs souffrances ont ému des hommes. Et le vers dit ceci, il y a des larmes pour les choses qui ont été vécues, et les affaires des mortels, d'ailleurs aussi bien des chiens que des hommes, touchent l'esprit. Et c'est ça la lumière du roman, je crois. C'est ce qui fait que c'est un roman, ou que c'est une œuvre, ou que c'est quelque chose qui fait briller une lumière, c'est que même la souffrance indicible du viol, qui ne peut pas être décrite, même cette souffrance-là, et derrière la souffrance du viol, la souffrance de l'apartheid, parce que c'est elle qui est en jeu aussi, même la souffrance des chiens, et on pourrait dire même l'indignité des chiens morts, dont les cadavres sont pris en charge par les gens qui s'occupent de ces cadavres pour qu'ils ne soient pas enterrés dans l'indignité, même cela, ça suscite les pleurs, sunt lacrimae rerum, et ça demande, ça appelle ce tableau, cette représentation, qu'est le livre même que nous avons lu.
Oui, mais moi je serais tout à fait d'accord avec ça, mais je ne crois pas que nous ayons glissé vers le politico-social en abandonnant la littérature, parce que c'est aussi... Non, ça n'a aucune importance, vous pourriez me vexer, mais c'est pas parce que... Je n'ai pas du tout été vexé, c'est pas du tout pour cela que je réagis, c'est pour défendre la présence dans le roman, justement, de cette critique, disons, de certaines illusions politiques, d'un certain angélisme politique. Et ça, seul le roman peut le faire. Enfin, le roman, vous voyez, il problématise là où nous pensons trop vite, trop hâtivement que des solutions sont intervenues. Et cela, je trouve qu'il le fait de manière magnifique. Et j'ai pensé aussi à un poète qui est cité dans le livre, qui est William Blake. Et je me souviens d'avoir lu dans les années 60 avec passion le mariage du ciel et de l'enfer, traduit par André Gide. Et il y avait ce petit aphorisme qui m'a longtemps poursuivi ou habité, c'est « le désir non suivi d'action engendre la pestilence ». Et c'est où il cite un autre aphorisme du même acabit d'ailleurs, et c'est un peu la règle qu'il essaye de s'imposer. Enfin, c'est comme ça qu'il traduit aussi la présence en lui et les exigences en lui d'Eros, et bon, avec cette dernière aventure avant la fin qu'il a avec Mélanie, Claude Abib.
Il y a un climat de difficulté d'être, d'âpreté, d'être rejeté, de réjection, qui est assez commun aux autres œuvres de Coetzee et à celle-ci. Il y a toujours une sorte de péril, de renfermement. Je pensais à lui en lisant cette formule de Tocqueville, que la démocratie ramène chaque homme sans cesse vers lui seul et menace de le renfermer enfin tout entier dans la solitude de son propre cœur. Ce sentiment de solitude presque sans issue, Pierre Pachet n'arrête pas de parler de lumière ou d'autres esprits touchés par ces faits, mais ce sentiment un peu accablant d'absence d'issue, je comprends qu'il écarte de Coetzee beaucoup de gens qui désireraient, oui, que le désir ait plus de gloire, plus d'impétuosité, plus de succès. Alors que ce sont des situations ingrates qu'il décrit, mais ce sont des situations aussi qui me paraissent à moi morales au plus haut sens du terme.
C'est-à-dire ?
Je veux dire que Coetzee n'est jamais moralisateur. Ça commence donc par ce sentiment d'un homme qui croit avoir trouvé la solution du problème sexuel avec ses relations hebdomadaires avec une prostituée, cette espèce de sexualité. Bon, qu'on pourrait juger indigne. Bon, lui, il s'en satisfait tout à fait. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis, ce que j'appelle la conscience morale, eh bien, c'est le fait d'être à la hauteur de son destin. C'est le fait, devant les coups du sort qui lui arrivent, de pas baisser la tête et de maintenir à la fois sa dignité d'homme, la dignité de son désir auquel il ne renonce pas. C'est pas.
Ah oui, justement.
C'est très beau, d'ailleurs, quand il va voir la famille Isaac. Il y a ce repas avec la famille dont vous parlez, Pierre. Et le père dit, j'espère que vous allez vous excuser, penser à Dieu, et tout ça. Il n'a aucune envie de s'excuser auprès de ce vieux bonhomme qui sent le tabac et puis qui lui paraît un peu tartuffe. Bon, donc il va voir les femmes dans la cuisine. Il va voir la mère de sa bien-aimée et sa petite sœur, qui est encore plus jolie, encore plus excitante. Il se met à genoux pour s'excuser devant les femmes en général. C'est d'ailleurs après le viol de sa fille. Et au moment où il se met à genoux, il est traversé par le désir. Dit le texte. Bon, alors cette conjonction de la génuflexion et de l'érection, ce fait de porter les deux en même temps, c'est bien l'indice qu'il n'y a aucun renoncement moralisateur au désir. Mmh. Mais il y a la dignité et la réflexivité. C'est quelqu'un qui ne cesse de penser ce qui lui arrive.
Non, mais enfin, plus que le rejet ou ce que le texte anglais appelle dejection, qui est très beau en anglais, qui est aussi, c'est pas simplement le fait d'être rejeté, c'est le sentiment d'être. Il y a le titre absolument magnifique du livre,
ah
Disgrace,
oui.
Disgrace, qui est repris à des moments divers, qui désigne des situations si différentes, aussi bien la disgrâce de vieillir, la disgrâce d'évoquer la possibilité de renoncer au désir, éventuellement de se castrer soi-même comme Origène, et puis la disgrâce des chiens qui meurent d'une façon indigne, la disgrâce de la femme qui est violée.
Et le fait d'être en disgrâce.
Et voilà, d'être en disgrâce amoureuse à l'égard de cette jeune fille qui est acceptée. Alors là, il y a vraiment beaucoup d'art, il faut quand même le dire, beaucoup d'art. Et cet art qui nous reconduit sans cesse à ces situations frustrantes et pénibles, c'est tout à fait exceptionnel, c'est vrai, oui.
Mais si on parle de tragédie, et je comprends pourquoi Pierre Pachet militait contre ce terme quand vous l'employiez tout à l'heure, ça veut dire que, justement, on referme les choses et on pense la fin, le fait de tuer ce chien comme ça à la fin, c'est la même chose que de tuer les chiens
par cruauté. En tout cas, je ne pense pas que livre dise cela.
Alors, si vous ne le pensez pas, vous ne pouvez pas dire que c'est une tragédie.
Alors, je disais que le tragique, pour moi, tient à deux choses. Le sentiment du trop tard, si vous voulez, comme si on avait voulu guérir de l'apartheid à un moment où ce n'était plus possible. Et puis aussi, le mot trop revient dans la bouche de David Leury à deux reprises. Et ça nous permettra de faire une transition et de parler pour les minutes qui nous restent de cette présence des animaux si importante dans le roman, cette autre disgrâce. À un moment donné, il dit, voilà, c'est ça, voilà, il y a trop de gens, pas assez de choses. Alors, d'une certaine manière, c'est plus seulement l'Afrique du Sud. C'est ce que Sartre, au début de la critique de la raison dialectique, appelle la rareté. Hein. La rareté. L'histoire humaine est une lutte acharnée contre la rareté, dit Sartre. Et il dit, tant que c'est comme ça, hein, chaque homme apparaît à l'autre homme comme un contre-homme, c'est-à-dire une menace. Il est le même et en même temps, il est notre double démoniaque. Mais Sartre dit ça dans une perspective, justement, de solution du problème humain, puisqu'on sortira de la rareté. Et lui dit non, on n'en sort pas. Et le terme « trop » revient à un autre moment, c'est intéressant, à propos des chiens. Et tout d'un coup, justement, c'est ces chiens surnuméraires, et il dit, les chiens sont trop fertiles. Il faut faire quelque chose, et à ce moment-là, effectivement, il fait quelque chose. Et c'est très intéressant de voir cette évolution de cet homme qui, dans une première discussion avec sa fille, ne comprend pas cet intérêt pour les bêtes. Elle dit, on n'est peut-être pas d'un ordre supérieur, mais on appartient tout à fait à un autre monde. Et peu à peu, il en vient, justement, à éprouver cette compassion. À un moment donné, d'ailleurs, il cite l'histoire d'un chien à qui on a fait honte. Il raconte à Kenilworth, quelque part, un chien à qui on faisait honte de son propre désir et qui à chaque fois, qui était battu par son maître alors qu'il ne comprenait plus rien à ce qu'il était. Il s'imagine un peu dans cette situation absolument atroce. Et puis, il en vient, et ça c'est effectivement cette grande beauté du livre, il en vient à faire ce travail... en effet, d'enterrer en quelque sorte les chiens, ce refus de cette dichotomie, l'homme meurt, l'animal périt.
Il les incinère,
vous avez raison. Il ne les enterre pas, mais il les accompagne. Il ne veut jamais que ce soit fait de manière méprisante et négligente. Alors, je voudrais que vous commentiez justement cette présence des animaux.
Il y a un autre livre dont Claude pourrait parler, qui est The Lives of Animals, dans lequel ce thème si important dans le monde anglo-saxon des droits des animaux et de la moralité à l'égard des animaux est abordé d'une façon tout à fait originale. Mais ici, je crois que tous les personnages qui s'occupent des animaux ont des positions diverses et que le roman ne propose aucun ralliement. Je veux dire que David, à la fin, lorsqu'il s'occupe des chiens avec Bev Shaw, avec cette femme, il s'en occupe à sa façon, et c'est pour lui, et c'est son amour pour les animaux qui signifie quelque chose dans sa disgrâce personnelle, alors que pour la femme c'est autre chose, et alors que pour l'idéologie de sa fille c'est encore autre chose, et il y a à côté de cela Petrus, le fermier africain, qui lui a acheté deux chèvres qui vont être sacrifiées pour un repas et qui les laisse pendant des jours et des jours sans rien à brouter parce qu'elles vont mourir et que c'est pas la peine de toute façon. Donc tout ce spectre d'attitude est présenté. Évidemment, on est infiniment plus proche de David Leury, il faut pas dire le contraire. Les personnages ne sont pas livrés dans un vide neutre, pas du tout. On est très très proche de David Leury. Moi, je suis proche de David Leury parce que je suis un homme et que j'ai un peu son âge et que je comprends ses problèmes. Mais je crois que le lecteur, en général, est amené vers sa compréhension propre.
D'autant plus qu'il n'y a aucun militantisme chez lui. On n'est pas dans le... cas de figure de ce livre tout à fait étrange et très beau qui s'appelle The Lives of Animals. Ce sont des conférences données par Coetzee, mais c'est des conférences romanesques. C'est-à-dire, en guise de conférence, il raconte une histoire et il met en scène des idées. Et là, il n'a pas d'idées, David Leury. Il a des idées sur beaucoup de choses. Et même, il a des préjugés contre les animaux, préjugés que sa situation l'amène à surmonter et à vaincre. Encore une fois, à sa propre surprise, il s'étonne lui-même d'accompagner ainsi les animaux pour les aider à mourir. Claude Abbé.
Pierre, vous disiez que on est plus du côté de David Leury. Moi, ce qui me frappe, c'est que le roman est un roman qui épouse sa perspective, et sa perspective n'est pas absolument compréhensive. C'est-à-dire qu'on est tout le temps devant des choses qu'il n'a pas comprises, des passages dans la conversation qu'il n'a pas élucidés, des choses sur lesquelles il ne tranche pas. Et ça, c'est un deuxième trait de ce roman. Je citais Tocqueville sur la solitude tout à l'heure, sur la solitude presque absolue du cœur humain, de l'individu moderne. Et ça, c'est le deuxième trait qui fait pour moi un art moderne et entièrement démocratique, c'est l'indétermination. C'est vraiment un personnage qui est plongé dans des conditions d'indétermination et vous ne savez pas à la fin si ce qui va arriver à sa fille est déplorable ou au contraire, pour sa fille, est une chance et un nouveau départ. Même, je le dis en termes de chance, qui peut paraître effrayant. Vous ne savez pas si il ira au bout de son opéra. Vous êtes plein de perplexité. C'est un roman qui plonge, je crois, dans la perplexité de vivre.
Ça, c'est... Alors, c'est pour ça que vous refusiez le terme de tragique que j'utilisais, parce qu'il voulait fermer le sens et l'indétermination, pour vous, exclut d'une certaine manière ce qu'il peut y avoir d'inéluctable dans le verdict tragique.
Vous m'entendez très bien, et c'est pour ça que je séparais aussi de Flaubert au départ, dont il est à certains égards si proche, mais il y a le caractère fatidique, un peu accablant qu'il y a chez Flaubert, et que je ne retrouve pas ici. Donc oui, même si c'est une courbe qui paraît être uniment celle de la déchéance, je ne crois pas que ce soit de l'ordre de la tragédie.
Ah, le mot de déchéance, en effet, il doit être envisagé avec beaucoup de prudence, parce que dans sa déchéance, enfin, nous l'accompagnons, David Lurie, et puis il y a une sorte d'enrichissement personnel. Il est déchu, mais il comprend des choses, il a un rapport au monde qui diffère à la fin et au début, auquel nous sommes amenés à adhérer, mais en même temps, peut-être que sa fille connaîtra une forme de salut ou une forme de bonheur, mais on ne peut pas manquer de penser que tout cela est terrible, quoi. De même
il imagine d'ailleurs que sa fille... Quand sa fille lui survivra, aura un enfant qui vivra lui-même, qui sera solide, il imagine cela. Et en même temps, le roman a un sens très aigu de la précarité des choses, du fait qu'une existence humaine n'est faite que pour être détruite, que pour finir dans un trou. Et il n'y a pas une idée très ferme de la transmission. Mais je suis très sensible, par exemple, à une des leçons que la disgrâce du personnage de David Lurie lui apporte, mais qui est une leçon très transitoire. C'est que en connaissant la disgrâce, il réalise à quel point toutes les femmes qu'il a connues charnellement lui ont chacune donné quelque chose. Il s'en souvient, ça revient. Et ça revient comme quelque chose qui sera détruit, sa mémoire elle-même sera détruite. Ça ne revient pas comme quelque chose qui va rester. Ça revient justement dans cet espace de lumière provisoire qu'est celle du roman. Et que ça revienne dans cette lumière provisoire, que ça ne soit pas un espoir, comme il pouvait y en avoir justement chez Virgile dans l'Énéide, ça aussi, ça me frappe, et c'est sans doute tocquevillien, j'étais très sensible à ce que disait Claude Abib sur ce point.
Claude Abib.
Sur la précarité, je crois que même l'art est emporté dans cette forme de précarité, du moins l'art représenté à l'intérieur de ce roman, puisqu'il essaye d'écrire un opéra sur Byron, que cet opéra est un opéra sur le dernier amour de Byron, donc on voit bien le rapport entre lui-même qui dit adieu à l'Eros dans cette histoire tellement ratée avec Mélanie, et puis le dernier amour du poète. Et en même temps, cet opéra, ça va être un opéra fait avec des bouts de ficelle. Ça va être un opéra non pas au piano, il commence au piano, mais au banjo. Et pourquoi au banjo? Ben parce que le son maigrelet et un peu ridicule du banjo, cette ironie de faire un opéra avec rien, c'est finalement ce qui le stimule. Donc vous avez un art fait avec des riens qui doute d'ailleurs complètement de lui-même. Il dit à la fin que il perd toute idée que cet opéra réussira dans le monde, il perd toute idée que sa fille sera fière de lui par cet opéra, ça ne sera pas. Il faut qu'il mette la sourdine à ses espoirs. Quelque part, du déchaînement sonore jaillira, comme un oiseau, une seule note vraie d'immortel désir. Il laissera aux érudits de demain le soin de la reconnaître, si tant est qu'il y a encore des érudits et des chercheurs d'ici là. C'est-à-dire qu'il ne fait pas le tri dans ce lyrisme.
Oui, c'est très intéressant parce que, en effet, si tant est qu'il y ait des érudits et des chercheurs, il y a un moment où il part, il abandonne sans regret sa position d'enseignant parce qu'il a l'impression que ses étudiants appartiennent à une époque post-historique, post-chrétienne et post-alphabète. Donc ça, c'est peut-être démocratique et c'est peut-être tragique en même temps. C'est peut-être le tragique même de la démocratie. Et donc, s'il y a encore des érudits, ça renvoie aussi
Ça renvoie aussi à quelque chose d'évident dans l'art. Quand on est dans une activité artistique, c'est de ne pas savoir soi-même où est la beauté. Vous me demandiez de la définir au début, mais lui-même ignore où elle est dans ce qu'il écrit.
Alors, je terminerai aussi sur une citation pour peut-être réconcilier les perspectives. Il est dans ce centre, il dit, pour les animaux, on amène les chiens au centre parce qu'on ne veut pas d'eux, parce qu'on est trop de trop. Toujours cette obsession, vraiment. Et puis, un peu plus loin, c'est curieux qu'un égoïste comme lui se mette volontairement au service des chiens morts. Il y a d'autres façons plus productives de se donner au monde. Et puis, il dit oui, sans doute, mais d'autres peuvent faire tout ça, soigner les animaux, se consacrer à la réhabilitation sociale et même pondre quelque chose sur Byron. Il sauve l'honneur des cadavres parce qu'il n'y a personne d'autre qui soit assez bête pour le faire. Il est en train de devenir bête, stupide, buté. Je trouve que cette image, enfin, ou cette épitaphe pour ce personnage est absolument magnifique. Enfin, et c'est vrai, là, on est dans le tragique, mais on est aussi dans quelque chose de, comment dire, on ne peut à ce moment-là qu'aimer infiniment le personnage de David Lurie. Bien, bah, écoutez, nous en terminerons avec cette discussion. Je vous remercie parce que vous m'avez éclairé sur le livre. Pierre Pachet et Claude Habib. Je rappelle que ce livre de John Michael Coetzee, Disgrâce, est publié aux éditions du Seuil, qu'il a été traduit de l'anglais par Catherine Loga du Plessis. Je le dis parce que c'est un très beau livre en anglais, mais la traduction aussi est magnifique. Et je signale l'existence d'un livre non traduit encore, mais dont nous avons parlé, The Lies of Animals, de John Michael Coetzee, qui est publié aux éditions de Princeton University Press. C'est une conférence romanesque et c'est fait avec beaucoup d'art. Et je rappelle aussi que Claude Habib a publié son très bel article sur Disgrâce dans le numéro de novembre 2001 de la revue Esprit.